explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est une citadelle naturelle, un immense bloc de calcaire sculpté par les glaciers et l'érosion. On y monte par des grandes failles creusées en gorge ou par des cols étroits. Ces ouvertures tracées dans la roche mènent au plateau. Grands plans inclinés et tourmentés qui portent d'immenses forêts, des déserts minéraux et des alpages vallonnés. Bienvenue dans le massif du Vercors. L'historien Antoine Debac a entrepris de sillonner à pied pendant un mois ce massif de moyenne montagne qui s'étend entre l'Isère et la Drôme. Pour ce grand amoureux de la marche, le Vercors est un territoire singulier, presque intime. Ses paysages portent en eux le souvenir de ses randonnées de jeunesse. Mais cette forteresse naturelle est aussi un refuge où l'on croise la grande histoire, celle des chemins empruntés par les maquisards, celle des grottes où se sont abrités les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi ce passé tragique et héroïque que notre historien marcheur voulait explorer. Antoine Debac raconte ses pérégrinations sur les sentiers du Vercors dans un livre intitulé « Ma forteresse » aux éditions Paulsen. Son ouvrage alterne chroniques intimes, récits historiques et carnets de voyage. Cet après-midi, Antoine Debac nous emmène marcher par-delà les falaises, les hauts plateaux et les monts effilés et nous offre une vue imprenable sur le massif du Vercors. Claire Tessert m'a aidé à préparer cette émission. Stéphanie Texier la réalise avec à la technique aujourd'hui Anne-Laure Cochet. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
On a des endroits là comme des magnifiques prairies qui sont enfermées dans des forêts très belles, des forêts très denses. Après, au-dessus, donc on retrouve ces pelouses. De l'autre côté des pelouses, c'est le vertical, c'est la falaise. Donc on tombe dans du minéral, il y a des falaises. Au sud du Vercors, on a le Diois, il y a les cigales, il y a la lavande. Enfin, c'est déjà franchement le midi de la France. Au nord, on a Autran avec les stations de ski, Villard-de-Lans, il y a des grottes avec des glacières. Enfin, il y a vraiment des tas de milieux qui se côtoient en très peu de kilomètres. On va dire que ça doit faire à peu près une centaine de kilomètres de long sur 40 de large à peu près. Mais c'est surtout situé à un endroit très précis en France. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la zone de contact entre le nord et le sud, les Alpes du Nord, les Alpes du Sud. Donc ça va se retrouver sur la météo, sur la végétation, sur la faune. Vraiment, en très peu de temps, on a des milieux très variés qui se côtoient.
Bonjour Antoine Debac.
Bonjour.
Nous venons d'entendre Bernard Fourgousse, qui est garde de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors depuis près de 30 ans. Cette diversité de paysages et de climats dont il parle, c'est une des caractéristiques du Vercors qui vous est apparue en sillonnant ce massif en tous sens pendant un mois.
C'est sûr que c'est quelque chose qui frappe, mais je dirais quand on rentre dans le massif, c'est-à-dire que la première chose qui apparaît, c'est quand même le côté impressionnant, le côté bloc, le côté l'unité comme ça de ce lieu entouré de ces falaises de 300 mètres de haut, de ce calcaire gris, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant et c'est d'ailleurs difficile d'y monter et c'est difficile de découvrir. Ce qui fait l'autre spécificité du Vercors, c'est-à-dire cette mosaïque de petits pays. Donc oui, il y a deux Vercors en fait. Il y a la forteresse naturelle, minérale, et puis il y a cette mosaïque de petits pays qu'on peut parcourir ensuite. Peut-être un Vercors plus secret à ce moment-là.
C'est ça, un Vercors secret. C'est aussi ce qui vous plaît hein, dans ce lieu que vous dites taillé pour l'évasion. Et puis ces grandes falaises qui lui confèrent, c'est le titre de votre ouvrage, Ma forteresse, qui lui confère cette allure de citadelle naturelle. Mais ça date de l'aube de l'humanité. Les hommes de tout temps ont pris ce site comme une forteresse naturelle.
Oui, ce lieu a toujours été vu par les hommes depuis la préhistoire. Ouais. On a des traces qui sont très anciennes dans
l'homme
le Vercors.
L'homme de Néandertal, hein, il y a 50 000 ans, déjà bivouaquait dans le Vercors.
Les hommes se sont peu à peu emparé de ce lieu, essentiellement d'abord par les grottes, et peu à peu, ils ont commencé à coloniser ce lieu, et à d'abord pour y chasser, et puis ensuite pour y élever un certain nombre de bêtes, de rennes. Donc, c'est un lieu qui est vraiment comme une sorte de refuge, en fait.
Oui. Et ça a joué ce rôle très, très concrètement dans certaines périodes de l'histoire, des gens s'y sont réfugiés.
Oui, c'est un lieu qui a servi de refuge pour certaines peuplades de la préhistoire. Et ensuite, les Huguenots, hein, dans le sud du Vercors, se sont beaucoup installés là, dans ces petits pays du Diois, du Trièves, de la Gervanne, souvent dans des fermes fortifiées. Et puis, même parfois, on réussit à prendre certaines villes, comme Die, hein, qui est une sorte de capitale sud du Vercors, qui est devenue une ville huguenote. Et puis ensuite, on a toute cette tradition de réfugiés jusqu'au maquisards, bien sûr. Hein. Et puis, cette tradition ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire que je pense que ça a été un des modes, je dirais, de peuplement du Vercors encore récent. Hein. Ces gens qui fuient la ville, par exemple, et qui vont s'installer dans ces campagnes, dans ces montagnes, comme s'ils étaient toujours à la fois accueillis et protégés par cette nature. Et donc, dans le Diois, par exemple, ou en Gervanne, il y a beaucoup de gens qui se sont installés autour de 68, et puis même récemment, avec les confinements, hein, c'est encore un lieu qui accueille des populations souvent jeunes et qui veulent vivre autrement.
Ouais. Alors vous avez un lien personnel à ce territoire. Marcher sur ces chemins du Vercors, c'était un peu arpenter votre enfance et votre adolescence.
Oui, j'appelle ça une biographie, une autobiographie marchée. Hein. Oui. Il se trouve que mes parents ont acheté une vieille ferme à l'abandon sous les falaises exactement à côté de Grèce en Vercors, dans le côté est du Vercors, côté très sauvage. J'avais à ce moment-là 7 ans, et c'est vrai que ma mère notamment s'est pris d'amour pour ce lieu, pour cette ferme qu'elle a fait restaurer, et cette maison est restée pendant un certain nombre de décennies dans la famille, et j'y ai passé tous les mois de vacances de mon enfance, c'est-à-dire, et de l'adolescence jusqu'à la jeunesse, c'est-à-dire pas loin de 4 mois par an, en fait. Ouais. Dès qu'il y avait des vacances, j'étais là-bas, et c'est là où j'ai découvert la montagne.
Ouais. Vous avez eu, à l'âge de 19 ans, un accident grave en montagne, ce qui vous a fait rompre un peu avec cette passion naissante de votre jeunesse pour la montagne. Vous êtes devenu, à ce moment-là, vous le dites, un peu un rat de bibliothèque. En tout cas, vous êtes devenu un homme du dedans, hein, ce sont vos termes. Et puis, c'est finalement sur le tard que cet amour, cette passion pour la marche en montagne vous a rattrapé. À quelle occasion ?
Alors, c'est l'occasion peu dramatique et en même temps assez banal de la mort de mon père. Il y a maintenant une quinzaine d'années, j'ai découvert dans l'appartement familial que j'ai dû ranger à ce moment-là dans un placard beaucoup de traces de cette vie de ma jeunesse et notamment de ce que je pourrais appeler cette vie randonnée que j'avais pratiquée quand j'étais adolescent, notamment en partant seul comme ça sur ces chemins en face de la maison et j'en avais gardé des traces, des journaux, des écrits, des dessins. Et c'est vrai qu'en retrouvant ça, ça a fait comme un effet, je dirais, Madeleine. Hein. J'ai voulu repartir sur les chemins des Alpes. Et donc en 2009, je me suis lancé dans une traversée des Alpes, du lac Léman à Nice, qui était une façon finalement d'être fidèle à mon enfance. Mais j'ai pas voulu tout de suite...
Oui, c'est ça. Le Vercors, il a fallu du temps pour y revenir, parce qu'il y avait peut-être aussi une inquiétude de ce que vous alliez trouver sur ces chemins de votre enfance.
Sûrement.
On aura l'occasion de revenir à ça, n'allons pas trop vite. Vous disiez, j'ai laissé des traces écrites, c'est-à-dire que très tôt, la montagne, la découverte de la montagne passait par l'écrit et aussi par la lecture. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui vous a fait particulièrement aimer le Vercors et plus particulièrement cette région où votre maison se trouvait, c'est Jean Giono.
Voilà, Giono était... D'abord une passion de mon père, là aussi c'est quelque chose que mon père m'a transmis. Il était un grand lecteur de Giono et il se trouve que Giono a passé beaucoup d'étés, plusieurs étés dans cette petite région très singulière et en même temps très intégrée au Vercors, même si c'est une sorte de coin dans le Vercors, au sud du Vercors, qui est le Trièves. Et voilà, je suis tombé littéralement amoureux de la langue de Giono, qui est une langue voilà, assez lyrique et qui est parfaite, je trouve, pour incarner les paysages en trouvant des mots qui ne sont qu'à lui, quoi.
Voici par exemple comment Jean Giono parle des arbres du Trièves, cette région qui vous tient tant à cœur dans le Vercors.
Je pense à toutes ces choses en m'en allant à travers les prés par ce soir de glorieux automne. La plus petite flexion du pré se remplit d'ombre. La vague d'herbe la plus ronde pétille de soleil. Les arbres sont tous séparés les uns des autres, même ceux qui se touchent en bosquet. On peut voir toutes les feuilles, et qu'il y en a des milliers. La tige, la branche, les grosses branches, le tronc, sans que rien ne soit plus obscurément mélangé. Mais la vie lucide apparaît dans les moindres détails. Ce sont des compagnons qui m'expliquent familièrement les chemins et les routes, et me transmettent de l'un à l'autre pour que je ne m'égare pas. Ils habitent le pays en même temps que moi, depuis des pentes du Mont de Fer jusqu'à la montagne de Saint-Michel. Je les vois partout. Ici, ce sont les chênes, les bouleaux, les érables. Là-bas, des alisiers, des saules. Plus loin, des châtaigniers, des peupliers, des pommiers. Et ils sont régulièrement plantés dans une terre verte. Plus loin encore, des pins à rôles. Puis, les gros chênes qui commencent à escalader les pentes de l'autre côté. Puis, des sapins, puis des mélèzes, des pâturages bordés de pruniers bleus. Et enfin, le grand corps sombre de la forêt.
Un texte de Jean Giono, extrait d'un récit intitulé « Les vraies richesses ». Il fait de ces arbres immobiles des compagnons de route. C'est ce que vous disiez, hein. Il a vraiment une capacité à incarner le paysage. Le paysage, c'est un personnage à part entière chez Giono.
C'est sûr, c'est ce qui m'a vraiment toujours frappé et c'est ce qui m'a toujours plu dans cette écriture qui est extrêmement inventive et très soucieuse du détail, de la description. Et puis tout d'un coup, on part avec une image qui vous emporte, qui vous fait comme survoler le paysage. Et puis on se repose plus loin et là, tout d'un coup, on est devant un ver de terre ou un brin d'herbe ou un tronc d'arbre. Et voilà, c'est cette écriture de Giono qui est à la fois extrêmement topographique et lyrique, qui m'a sûrement fait aimer le Vercors. Et c'est pour ça que dans le livre, j'ai voulu commencer par le Trièves. Voilà, le premier chapitre, c'est le Trièves. C'est Giono qui devient en quelque sorte mon compagnon de route. Et il se trouve que j'ai lu dans sa correspondance une lettre où Giono, au moment où il passe ses étés à l'Allais, invite ses filles à venir marcher avec lui. Et j'ai pris cette lettre littéralement comme si Giono s'adressait à moi pour m'inviter à venir marcher avec lui.
Sur ces sentiers du Vercors, vous aviez rendez-vous avec une nature sauvage et préservée, avec vos souvenirs de jeunesse, votre histoire intime, mais aussi avec l'histoire de notre pays. L'historien Antoine Debac nous emmène marcher dans le Vercors cet après-midi, le temps d'un bivouac sur France Inter.
I'm
C'était Camille et Yael Naïm qui chantaient « I Walk Until » sur France Inter, dans le temps d'un bivouac.
On est parti de Saint-Agnan, donc des plateaux centraux du Vercors, et on est monté enfin sur cette célèbre réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors pour assister à l'aube, au lever du soleil. D'ailleurs, le soleil commence à apparaître derrière le Grand Vémont, là, il commence à nous éblouir. Et pour justement venir écouter le chant nuptial du tétralyre ou coq de bruyère ou petit coq selon les appellations locales. On l'appelle d'ailleurs le tétralyre parce que les grandes plumes extérieures de la queue sont recourbées en forme de lyre et c'est pour ça qu'on l'appelle tétralyre. C'est un très bel oiseau qui est de loin paraît noir mais en fait bien éclairé, a des reflets un peu violacés, irisés.
Le chant du tétralyre que nous invitait à écouter au petit matin le guide naturaliste Gilles Trochard sur les hauteurs du Vercors. Notre invité, l'historien Antoine Debac, a arpenté les sentiers du Vercors pendant un mois. Il raconte son cheminement dans l'espace et le temps à travers ce massif dans un livre intitulé « Ma forteresse » chez Paul Sen. Vous l'avez entendu, ce chant du tétralyre ou coq de bruyère, Antoine Debac, lors de vos pérégrinations ?
Malheureusement, non. À la fois, sans doute, parce que je me lève un peu plus tard.
C'est vrai que vous n'êtes pas un marcheur
de l'aube. Hein. Oui.
Vous le reconnaissez facilement dans votre livre.
Et puis, le tétralyre, c'est un oiseau vraiment très, très protégé. Donc, on est là au cœur de la réserve naturelle, hein, qui est la plus grande réserve de France. Hein. Mmh. C'est vraiment un lieu qui est ultra protégé et les chemins de randonnée ne passent pas près des zones de nidification et de reproduction des tétralyres. Donc c'est un événement d'entendre le tétralyre. Moi j'entendais plutôt ces oiseaux plus communs qu'on trouve en arrivant au départ dans les falaises, hein, c'est les choucas qui ont des cris extrêmement perçants et qui ça fait vraiment partie de l'ambiance sonore de ces lieux assez désolés comme ça où on traverse les failles dans les falaises, souvent très vertigineux, un peu inquiétant, un peu angoissant, et ces cris de ces oiseaux comme ça stridents, c'est comme si on venait les déranger dans leur propriétés, hein, qui sont ces grandes falaises du Vercors. Donc c'est plutôt ces sons-là que moi j'ai entendus.
Vous êtes sensible, hein, à cette faune sauvage du Vercors. Déjà, beaucoup d'espèces ont été réintroduites là. Hein. C'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert pour les écologues.
Absolument, c'est primordial. C'est-à-dire que le Vercors est à la fois un parc naturel régional, hein, depuis 1970, c'est voilà un grand forestier, comme on les appelait, qui s'appelait Jean-Pierre Fevrier, hein, qui a dirigé, quasiment créé comme ça ce parc. Et une de ses premières missions, c'était de réintroduire des grands animaux. Le premier qui a été réintroduit, c'est le lynx dans les années 70. Et puis avec l'arrivée donc de ce deuxième moment en 85, qui est la réserve naturelle, donc la plus grande réserve de France, qui fait à peu près 25 km de long sur 10 ou 5 de large, sur les hauts plateaux, donc l'endroit le plus sauvage du Vercors, on a réintroduit d'abord des vautours en 99, ça a mis 10 ans, c'est très long de réintroduire des vautours, d'abord ils vivent en volière, puis ensuite le temps qu'ils arrivent à nourrir leurs petits, c'est-à-dire on estime qu'ils sont acclimatés quand les petits peuvent être nourris par les parents et se débrouiller tout seuls.
En fait, ils sont complètement autonomes. Voilà, et ça a pris
10 ans.
10 ans. Ouais, 10 ans pour que ces vautours venus d'Espagne, introduits depuis l'Espagne, soient vraiment autonomes sur le massif.
Et en même temps, ça a très bien marché. C'est-à-dire dans les falaises sud du Vercors, du cirque d'Archiane, du col de Rousset, de Fondure, on voit ces vautours. Il y a maintenant près de 200 couples. Et ils ont même, dans le parc, réintroduit des gypaètes, hein, qui est cette forme de vautour extrêmement spectaculaire, très large d'envergure. Donc voilà, il y a eu tout un mouvement de réintroduction et de protection donc de la faune et de la flore par le parc.
Et qui contribue à l'ambiance, hein, parce que vous le dites, quand on arrive sur ces hauts plateaux, il y a l'exaltation déjà d'être arrivé en haut et puis devant ces grands espaces. Et en même temps, cette exaltation est tempérée par l'austérité, la sécheresse des lieux. Vous le dites, finalement, on est clairement dans un royaume qui n'est pas fait pour les humains, où les humains ne font que passer pour vivre ici, il faut être un chamois, un mouton, un lynx ou un loup.
Oui, c'est le plus grand désert français.
Ouais.
On l'oublie aussi. Hein. C'est au plateau du Vercors représente un lieu qui est extrêmement sauvage, extrêmement, c'est vrai, austère et assez désolé, où la présence humaine n'est que accueillie. Elle n'est voilà, il y a d'ailleurs que quelques refuges qui sont pas des refuges gardés. Hein. Donc pour parcourir ces lieux et surtout pour y rester, ne serait-ce que une ou deux journées, c'est vraiment une expérience qu'il faut faire. Il faut voilà passer par ces lieux qui sont beaucoup moins accueillants que le bon refuge suisse qui vous accueille avec un bon repas.
Ouais.
Vous allez un petit peu souffrir pour parcourir ces lieux. Et ça fait partie, je trouve, de l'identité du Vercors.
Ouais. Et pour retranscrire ces paysages, ces impressions, ces émotions que vous ressentez, alors tout au long du parcours, vous avez votre carnet dans lequel vous dessinez, vous avez tout un code couleur avec des lettres, des chiffres pour vous souvenir avec des moyens mnémotechniques de ces sensations. Vous collectez aussi des petites herbes, des cailloux, des bouts d'ailes. Enfin, vous faites votre miel de tout ce que vous recevez autour de vous. Et ce souci de faire attention aux petits détails qui vous environnent, ça vous fait un point commun avec Jean Giono dont on parlait en début d'émission. Voici ce que Jean Giono répondait en 1942, quand on lui demandait pourquoi il ne voyageait pas dans les pays lointains.
On est généralement surpris de mon absence totale de goût pour les grands voyages. On me dit comment, vous ne connaissez pas le Maroc, tu devrais aller en Égypte, vous aimeriez beaucoup l'Espagne, vous n'êtes donc pas curieux. Je suis curieux comme un rat. J'ai précisément cette intense curiosité du museau, de l'œil, de l'oreille, du flair. J'épie, je guette, j'ai toujours sur place de quoi agiter mon esprit. Et il ne me faut qu'un pas pour entrer subitement en si étrange matière, si foisonnée, si échelonnée en merveille, que je perds le goût d'aller plus loin, tant que mon extraordinaire gourmandise ne m'a pas d'abord renseigné sur toutes les saveurs d'alentour. J'ai la passion d'assister à la naissance des papillons. Je recherche les chenilles. Cela m'oblige à connaître les plantes. Il me faut ensuite me pencher longtemps sur un être qui semble bourre, mais qui prépare avec lenteur la plus formidable explosion du monde. J'ai le temps, devant son spectacle, de faire le catalogue de mes jouissances.
Jean Giono, l'archive date de 1942. Vous partagez avec lui cet émerveillement pour le vivant, Antoine Debacq.
C'est vrai, pour le vivant, dans son détail, hein,
oui.
dans son... Parfois, sa surprise, le goût du hasard aussi, de tomber tout d'un coup sur une fleur, sur un animal. Oui, c'est quelque chose qui me caractérise et je partage avec Giono cette curiosité, je dirais, locale. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout un voyageur au long cours.
Oui.
Je suis très mal à l'aise. Dans des pays que je ne connais pas en fait, et j'aime bien en fait retrouver quelque chose, découvrir, mais dans une proximité qui passe effectivement par ces collectes à la fois de regards et puis de matière, de matériaux, hein, qui composent finalement ces journaux que je tiens pendant les marches.
Un des paysages les plus connus du Vercors, auquel vous êtes particulièrement attaché, c'est le Mont Aiguille. Vous en parlez avec beaucoup de tendresse et d'affection. C'est mon aiguille, dites-vous, et il est la propriété topo-guidée de tous. Il sait se cacher avec sa pudeur de pucelle. Il comprend que j'écris sur lui. On le voit de tous les points de vue en effectuant la circumambulation. Ce n'est jamais tout à fait le même. Avec sa gueule de carte postale, il est pourtant la marque de l'extrême plasticité d'un insaisissable massif.
Le Mont Aiguille, c'est cette expérience de faire le tour d'une montagne qui n'est jamais la même, effectivement.
Ouais.
C'est un classique, le tour du Mont Aiguille. On fait ça en 3-4 jours. Et c'est vrai que c'est ça qui est le plus frappant. Parfois, il est extrêmement effilé, hein,
ouais,
quand on le voit notamment par son pilier sud, ou au contraire, il peut s'arrondir.
Vous dites même que Rabelais le décrivait comme une citrouille ou comme un gros potiron.
Oh,
enfin,
voilà.
On faisait quelque chose de très épaté. Il l'a vu sous un autre angle que
moi.
Il
l'a vu sous un autre angle que moi.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est très étonnant. Les descriptions du Mont Aiguille et d'ailleurs les photos du Mont Aiguille sont toutes très différentes et ça dit quelque chose du massif du Vercors.
Alors il a été longtemps surnommé le Mont Inaccessible. C'est Charles VIII, le roi Charles VIII, qui passant à son pied alors qu'il se rendait vers l'Italie en 1492, qui a été attiré par ce défi que représentait pour lui le Mont Aiguille.
Oui, et il demande à un de ses lieutenants, Antoine de Ville, de conquérir ce mont inaccessible. Et le lieutenant de Ville le fait avec beaucoup d'échelles, de cordes. On les appelle d'ailleurs les escaleurs, hein, ces premiers alpinistes en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on date de 1492, le succès, la conquête du Mont Aiguille, la naissance de l'alpinisme. Ouais, hein, c'est vraiment une date dans l'histoire de la montagne.
Alors, il y a ces histoires que vous racontez dans votre ouvrage, Antoine de Bac, avec la distance de l'historien. Mais il y a aussi, dans votre récit, des fictions où tout d'un coup, justement, alors que vous êtes autour de ce Mont Aiguille, on vous tire dessus, vous allez vous réfugier dans une grotte, et puis vous vous retrouvez en présence de maquisards pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Vous vivez au présent une histoire passée. Pourquoi vous avez choisi ce type de récit ?
J'ai hésité sur la façon de faire entrer l'histoire dans ce livre. J'avais fait, pour la traversée des Alpes, un travail plus classique, qui était de faire alterner le récit de marche et puis les études historiques. Et là, je me suis dit que pour rendre compte de la présence de l'histoire dans le Vercors, le mieux c'était de passer par une forme de coprésence. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est comme si les sentiers étaient mes couloirs du temps. Au détour du sentier, je tombe effectivement sur une scène qui se passe en 44 ou qui se passe à une époque très très lointaine, et j'assiste à la fois en témoin, mais un témoin qui a un rôle en même temps non pas actif, parce que je ne vais pas devenir un héros de la résistance, loin de là, mais je peux tout d'un coup assister à quelque chose et y tenir un certain rôle. Voilà, tout d'un coup, j'arrive à Saint-Martin-du-Vercors, il y a une conférence de presse, on est au début de l'été de juillet 44, la République du Vercors vient de se créer, et les leaders du maquis tiennent une conférence de presse. Il se trouve que j'ai ma carte de presse, que j'étais rédacteur en chef de Libération, le mot Libération, ça les intéresse, et hop, je suis embarqué, embedded, au milieu de cette conférence de presse.
Nous allons emprunter avec vous ces couloirs du temps. Dans ce massif, l'histoire des maquisards affleure régulièrement au détour des sentiers. L'historien que vous êtes y est forcément très sensible. Nous allons revenir sur les moments de bravoure et les drames qui se sont déroulés dans le massif du Vercors. Avec vous, Antoine de Bac, dans la suite du Temps d'un bivouac sur France Inter.
Et je vois très bien ta robe sur la scène, visage de profil, Aventura. La loge, le bordel, les quatre semaines, la place de Clichy, ce printemps-là. À Nantes et à Rouen, les rêves sont les mêmes, nos deux noms en rouge à l'Olympia. On attend le soir sur la place, on traîne, on s'achète un truc et on s'assoit avec Jeanne. Avec Jeanne. Les trains nous emmènent Montpellier, Mulhouse, chacun pour soi. Pourvu que plus tard tu m'écrives quand même. Dernier salut, j'ai pensé à toi. Et toujours tes vocalises qui reviennent. À travers le mur, j'entends ta voix. Quelle que soit la vie, quoi qu'on devienne, la place de Clichy, on a vécu ça. Avec Jeanne.
C'était Avec Jeanne de Vincent Delerme.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
La résistance décide d'envoyer un opérateur filmer la vie d'un maquis.
J'ai emballé ma caméra et la pellicule dans des colis de légumes. Et me voilà parti. Pour le maquis du Vercors, paraît-il.
Qu'est-ce que le Vercors ? Une véritable citadelle naturelle. Un immense plateau de 150 km de long, orienté nord-sud, et de plus de 50 km de large.
Nous ne tardons pas aussi à rencontrer les hommes du maquis. Le premier cantonnement en montagne, nous sommes arrivés. La soupe n'était pas mauvaise et les gars étaient gentils. On n'avait pas de journaux, mais la radio nous apportait son lot quotidien de messages personnels et d'informations.
Le piano est au milieu du salon. Silence, on tourne deux fois. L'archevêque dit au Wolfram, je ne prendrai pas de poisson ce soir.
Ici Londres, les Français parlent aux Français.
Extrait du film Au cœur de l'orage, daté de 1948, qui raconte comment le Vercors est devenu une forteresse de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Antoine Debac, en allant marcher pendant un mois dans le Vercors, c'est aussi à la rencontre de cette histoire-là que vous alliez.
C'est vrai qu'on ne peut pas la rater quand on est sur le plateau du Vercors. Hein. Il y a près de 160 stèles, rappels, cimetières. C'est une histoire tragique, mais c'est une histoire qui est très présente dans le paysage, qui s'inscrit vraiment presque dans la roche même de, du massif. C'est une histoire qui commence à la fin de l'année 42, quand un architecte, qui est aussi un grand alpiniste, qui s'appelle Pierre Dalloz, à cette idée d'un plan montagnard. Et ce plan montagnard, voilà, il a cette idée parce qu'il habite sous le Vercors, à Sassenage, sa maison voilà, est sous les falaises, et il se dit, voilà, cette forteresse, cette citadelle naturelle, elle pourrait être un refuge pour des jeunes gens qui refusent l'occupation et qui pourraient ensuite se regrouper là-haut, s'armer, se former, et ensuite on bloque les issues pour que les Allemands ne puissent pas les déloger, et au moment opportun, quand il faudra aider par exemple un débarquement allié, eh bien il pourrait descendre. Et c'est vrai que stratégiquement le Vercors est une position importante au-dessus de la vallée du Rhône, au-dessus de la vallée de l'Isère, donc c'est un lieu qui peut être stratégiquement très ennuyeux pour les Allemands.
Donc c'est-à-dire l'idée, c'est de profiter de cette citadelle naturelle, de boucher les issues, les bloquer, pour en faire en fait une base sur laquelle pourraient arriver en masse des troupes alliées et déferler le moment venu. Ce plan, ce projet montagnard va jamais être totalement mis en œuvre. Les Allemands, déjà dès début 1944, s'attaque au Vercors.
Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois un plan qui fonctionne au sens où on a assez vite plusieurs milliers de jeunes gens qui montent, notamment parce que à partir de début 43, le STO, le travail obligatoire en Allemagne, s'impose à la jeunesse française, et beaucoup de jeunes de la région refusent d'aller travailler en Allemagne et vont se réfugier sur le plateau. Donc ensuite, il faut armer ces jeunes gens, donc d'où des parachutages alliés. Et c'est vrai que le plan à la fois fonctionne.
En fait, en même temps, il commence et puis il va pas au bout de ce qui était prévu. Mais tout de même, malgré les attaques en 1944 des Allemands, avec déjà des villages et des villes martyrs, en juillet 44, il va y avoir l'instauration d'une république libre du Vercors. Que se passe-t-il exactement à ce moment-là dans le massif ?
C'est le moment où, dans un contexte un peu particulier, le débarquement en Normandie a eu lieu en juin 44. Il y a une sorte d'enthousiasme, presque d'euphorie. Hein. Et les meneurs, les chefs du maquis décident de fermer le Vercors, hein, et donc d'en faire une république, la première république libre sur le sol français, le 3 juillet 44. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a pas loin de 3 ou 4 000 combattants armée dans le maquis.
Marc Ferraud, qui deviendra par la suite historien, était alors un jeune résistant. Il avait raconté en 1994 comment il était arrivé sur le plateau du Vercors alors que la République libre venait d'être instaurée.
Mon réseau a été démantelé, j'ai pas été arrêté, c'est le hasard. Et puis mais mon réseau m'a emmené au maquis, au Vercors. Et donc avec ma valise, on m'avait demandé de me déguiser en étudiant, ce que j'étais d'ailleurs, avec un costume et une cravate. Je suis monté au maquis, à pied bien sûr, et puis on m'a pris en voiture une fois que j'ai franchi les ponts de l'Isère. Et là, je suis arrivé au maquis, et subitement, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Devant un petit village, une mairie, il y avait des drapeaux français, République française, et on chantait la Marseillaise. Je veux dire, on était libre, dans un pays libre, un peu comme une île de liberté, 6 mois avant la libération, ou 3 mois, enfin quelques mois avant la libération. Mais on était en France, on n'était plus en pays occupé, vous voyez. Et ça a été un moment de pleurs, d'émerveillement, comme j'ai jamais eu de ma vie.
La voix de l'historien Marc Ferraud, décédé en avril 2021. L'archive que l'on vient d'entendre date de 1994 et on entend, comme des années après, l'émotion liée à cette arrivée dans le Vercors est encore intacte. Un des plus beaux moments de sa vie, dit-il.
C'est tout à fait juste parce que ça a été très partagé par tous ces jeunes gens ou par les chefs du maquis qui ont été très très enthousiasmés hein, par cela. Tout d'un coup, un petit pays, une petite île, oui, sur le plateau du Vercors était libre, était devenu la République libre. Et ça a beaucoup inquiété les Allemands. Hein. Mmh. Évidemment, les Allemands vont réagir très vite à cet enthousiasme qui s'est trouvé peut-être être un petit peu trop démonstratif.
Ouais. Ils vont réagir très vite et très fort. 10 000 soldats allemands vont déferler, vont prendre d'assaut cette forteresse naturelle du Vercors. Des combats terribles, des atrocités vont être commises à ce moment-là sur ce plateau.
Bah les Allemands ont une tactique qui est très au point, hein, avec notamment les chasseurs alpins allemands hein, qui vont nettoyer les pas, et puis les troupes importantes, hein, 10 000 hommes, il faut dire que c'est le principal maquis dans l'Europe occidentale, et donc ils mettent vraiment le paquet à partir du 21 juillet 44. Ils vont atterrir en planeur, les résistants attendaient les alliés, ce sont les Allemands qui atterrissent à Vassieux, ouais. Et à partir de cet endroit qu'ils prennent en 2 jours, ils vont ratisser le plateau, et c'est vrai que là se déroule un certain nombre de massacres, de destructions très importantes.
Certains villages vont être entièrement détruits, comme le village de Valchevrière, dont vous avez arpenté les ruines, Antoine Debac. Deux anciens résistants du Vercors, Denise Noirot et André Ravix, ancien maire de Villard-de-Lans, s'était rendu sur les ruines du village de Valchevrière pour un reportage pour France Culture en 1991.
Nous allons essayer de marcher au milieu des ruines de Valchevrière.
Oui.
Qui vous impressionne encore beaucoup?
Oui, quand j'arrive ici, je suis serrée. C'est impressionnant, très impressionnant.
Alors là, nous surplombons une ferme dont il ne reste presque plus rien.
Et puis, oui. Vous avez un four banal? Là, un four à pain, devant vous, il y avait un meunier. Et l'eau faisait tourner cette meule là en dessous. Le feu a tout détruit.
Il n'y avait personne, alors ils ont mis le feu, puis c'est tout.
On sait bien quand ils ont vu arriver les Allemands.
Mais... personne, il y avait quelques bûcherons encore. Quelques jours avant, il y avait des bûcherons, mais tout le monde est parti.
Au fond, les ruines de Valchevrière constituent une sorte de monument, au même titre que le chemin de croix.
C'est encore plus prégnant que le chemin de croix, moi, je trouve. C'est vraiment la croix dans sa réalisation. Quoi.
Écoutez ce silence. Il n'y a rien.
Écoutez ce silence, dit Denise Noirot, dans les ruines de ce village de Valchevrière, détruit par les Allemands en 1944. Vous avez, vous aussi, Antoine Debac, éprouver cette impression que le silence était plus pesant dans certains passages de ce Vercors encore endeuillé.
Le silence est reste très présent parce que ce sont des lieux qui, parfois comme Valchevrière, sont conservés comme des sanctuaires en fait. Et c'est vrai que quand on traverse les ruines noircies par les bombes au phosphore de ce gros hameau, hein, on comprend la violence qui a pu se déployer là, qui est une violence à la fois contre les maquisards, contre des soldats, une violence qu'on peut juger légitime, et en même temps aussi une violence contre des civils. Et là, évidemment, on est devant des scènes de massacres qui ont pu se multiplier sur le plateau, que ce soit dans des fermes, à la Chapelle en Vercors, à Malval, à Valchevrière.
Les combats dans le Vercors ont fait de nombreuses victimes, 639 combattants, mais vous le disiez, 201 civils aussi ont été tués. La forteresse qui devait protéger ce maquis, cette république libre, s'est transformée en piège mortel. Est-ce qu'on peut considérer que le Vercors, les résistants du Vercors ont été abandonnés par les Alliés?
Alors c'est vrai que c'est posé très vite devant la tragédie, hein, la question des responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ce lieu n'a pas reçu les armes nécessaires, n'a pas reçu l'appui nécessaire? Alors il y a trois thèses qui coexistent, hein, chacune peut avoir ses défenseurs. La première thèse, c'est de dire que le plan Montagnard, qui a été d'abord relayé à Londres, n'a pas ensuite réussi à convaincre l'état-major allié, qui n'ont pas considéré qu'il s'agissait d'un lieu prioritaire à défendre. La deuxième thèse, c'est celle du débarquement de juin 44. C'est vrai, c'est comme si le timing avait été mauvais, c'est-à-dire que le Vercors se mobilise dès début juillet 44, quelques semaines après le débarquement en Normandie, comme si les Américains, Eisenhower, avaient décidé de mobiliser tous les maquis français pour tenir les Allemands, pour leur permettre de mieux remporter la victoire en juin 44 en Normandie. Donc là, il y a un rôle héroïque, mais en même temps, je dirais presque désespéré. C'est-à-dire que c'est un massif, effectivement, qui est abandonné. Et c'est vrai que on peut se poser la question, et c'est la troisième hypothèse. Bon, moi, je n'irai pas jusque-là, parce que c'est l'hypothèse d'une sorte d'abandon volontaire de ce massif, comme quoi il aurait été dangereux d'armer comme ça une petite république qui aurait pu se retourner, être hostile au nouveau gouvernement français et allié à la libération. C'est la thèse un petit peu paranoïaque, je dirais.
Un peu complotiste. Cette république comme sous quoi, influence communiste aurait fait peur, aurait dérangé, on aurait préféré la sacrifier.
Ce qui n'est pas juste historiquement, puisque les communistes sont présents sur le Vercors, mais ils sont pas du tout majoritaire, c'est pas un maquis communiste, c'est un maquis qui est plutôt dirigé en fait par les restes de l'armée traditionnelle française, qui n'est pas une armée spécifiquement communiste.
Nous allons revenir au présent et à un Vercors plus paisible dans la dernière partie de notre bivouac. Vous allez, Antoine Debac, nous recommander quelques coins méconnus du massif du Vercors qui méritent le détour. Power. C'était Cat Power qui chantait Papa Power dans le temps d'un bivouac. Et la programmation musicale de cette émission est signée Valentine Chédebois.
Un des grands plaisirs des yeux du Vercors, c'est qu'il y a autant à voir en levant les yeux qu'en les abaissant. Il y a autant à voir dans le ciel que sur le plateau. Il y a toujours des nuages extraordinaires qui vont, je sais pas, des petits lenticulaires effilés jusqu'aux énormes cumulus qui viennent s'écraser, parce qu'ils viennent s'écraser contre la falaise là-bas à l'ouest, sur le démon, et puis après ils jaillissent comme s'ils avaient été comme une vague en fait. Hein, c'est poussé, le vent d'ouest les pousse contre la falaise et là ils éclatent et ensuite ils se recomposent. C'est très très beau. Il est rare qu'on ait un bleu méditerranéen, comme ça, tragique, sans aucune aspérité. C'est très rare. Quand ça arrive, et que le vent s'arrête, de ces jours de bleu absolu, il n'y a pas un souffle de vent, comme hier soir, les gens d'ici appellent ça la veille. Et ça laisse présager de ce que sera le lendemain.
L'écrivain Daniel Pénac, grand amoureux du Vercors, au micro de l'ami Denis Chessou. Voilà qui doit évoquer quelques souvenirs à notre invité Antoine Debac. Le ciel du Vercors est un élément important du paysage, Antoine Debac.
C'est tout à fait juste, cette alternance entre quelque chose d'assez calme et le côté très tourmenté hein, du ciel, du massif, du Vercors, comme du Vercors lui-même, hein, qui est un reflet, je trouve, de son histoire. Et je pense que la seule manière de calmer ce tourment, si on voulait, ce serait de reconnaître enfin le Vercors à sa juste valeur. Il faut savoir que aucun président de la République n'est monté sur le Vercors pour célébrer le martyr du Vercors. Je pense que ce serait quelque chose à faire.
Oui, voilà. Ça revient à plusieurs reprises. On sent que vous plaidez pour qu'un hommage officiel et digne de ce nom soit rendu aux résistants du Vercors. Vous aussi, il a fallu que vous payiez de votre personne pendant ce mois de marche dans le Vercors, Antoine Debac. Vous étiez parti sur les traces de votre jeunesse et ça fonctionne. Effectivement, chacun de vos souvenirs semble inscrit dans ce paysage sur ce massif. Mais ça vous renvoie aussi au temps qui passe et à l'âge que vous avez. Parce que ça a l'air de vous préoccuper à longueur de page. Hein. Bientôt 60 ans, je m'aveugle en jouant les marcheurs au long cours. La marche est bonne pour moi, mais aussi le plus cruel des révélateurs de mon vieillissement. Ce sont quelques phrases hein, que vous notez au fil du parcours. Ça vous a aussi renvoyé à ça, cette marche.
Et ça ne va pas s'arranger, puisque je viens de fêter mes 60 ans. Oui, forcément. À la fois parce que le Vercors est un massif très exigeant, hein, avec des dénivelés très importants. Ces pas, notamment, qui permettent de monter sur le Vercors, sont extrêmement escarpés. Et donc, oui, on souffre. Et on souffre d'autant plus quand on a un certain âge, comme je l'ai maintenant. Et c'est vrai que j'ai mesuré le temps passé, à la fois, évidemment, par rapport à mon enfance, et puis même par rapport aux randonnées dans les Alpes que je faisais il y a une dizaine d'années. Hein, je sens que le sac à dos pèse plus lourd, je sens cela. Donc forcément, c'était un très beau révélateur de sa propre vie. Hein.
Ouais. C'était aussi l'occasion de faire un bilan, ce retour au Vercors. Étant jeune, par exemple, lorsque vous parcouriez ces plateaux, vous rêviez de devenir berger. Le sort, vous en avez décidé autrement. C'est un regret. Vous vous dites maintenant que à 60 ans, vous arpentez ces plateaux, vous vous demandez ce qu'aurait été votre vie si vous aviez choisi la vie de berger.
Je me demande parfois ce qu'aurait été ma vie de berger. Je n'ai pas de regrets parce que je suis finalement assez heureux de la vie que j'ai menée, des études que j'ai menées. Mais c'est vrai que j'ai toujours une nostalgie très forte hein, quand je passe dans certains endroits et notamment sous le Grand Vémont, les grandes cabanes qui est ce lieu de l'arrivée des transhumances autrefois à pied, désormais où arrivent les gros camions comme ça, les grosses bétaillères qui amènent les troupeaux, ces milliers de bêtes qui arrivent. Et c'est vrai que dès que je vois un berger conduire ses chiens, c'est quelque chose de très nostalgique qui s'empare de moi. Mais c'est le lieu où je voudrais finir mes jours. Donc oui. C'est le lieu où j'achèterais ma maison.
Mais oui, ça aussi, vous le dites. Quand je dis que ça vous renvoie, cette idée de revenir aux origines, ça vous renvoie finalement à la fin de l'histoire, parce qu'à un moment, vous dites, c'est dans ce lieu que j'aimerais mourir, ou au moins que l'on disperse mes cendres. Vous avez des pensées assez noires quand
Mais
vous...
c'est toutes ces pensées qui arrivent quand on marche. C'est à la fois des pensées très heureuses, très euphoriques parfois, mais aussi des pensées qui peuvent être assez tristes, assez mélancoliques. Et c'est vrai que je sais exactement la côte de la Quincambaille, au-dessus de Grèce-en-Vercors, là où j'aimerais que mes cendres soient dispersées quand je passerai.
Allez, finissons sur une note un peu plus heureuse. Donnez-nous quelques exemples de coins méconnus du Vercors que vous nous conseillez pour qui n'a jamais marché sur ce massif.
Pour découvrir le Vercors, je trouve que le plus bel endroit, c'est peut-être le cirque d'Archiane. C'est là où on est confronté le plus, de façon la plus spectaculaire, aux falaises. Voilà, c'est un véritable cirque naturel et où les falaises... entre le gris et l'ocre, comme ça, vous tombe dessus de façon très très puissante. Et puis maintenant, avec la présence de ces vautours, ça donne une singularité, une personnalité à ce lieu extrêmement forte.
Merci Antoine Debac. Je rappelle le titre de votre livre, Ma forteresse, aux éditions Paulsen. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'appli Radio France. Et pour nous laisser un message, il y a nos pages Instagram et Facebook. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.